voisin. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons de la révolution au Liban et des attentes de la jeunesse et des femmes. C'est une annonce de taxe sur la messagerie WhatsApp qui a embrasé le pays. La population libanaise est maintenant dans son deuxième mois dans la rue. Les partis politiques ont tenté la division du mouvement en jouant sur les vieilles rancœurs communautaires. Mais les lycéens, les étudiants sont venus renforcer le mouvement. Le pays est l'un des plus inégalitaires au monde, touché par un fort taux de chômage, l'accès à une éducation de qualité est largement privatisé, il y a les coupures d'électricité quotidiennes, la corruption à tous les niveaux, des lois rétrogrades aussi qui interdisent par exemple le mariage civil, et toute une génération, une nouvelle génération qui n'a pas connu la guerre du Liban de 75 à 90, qui veut sortir des clivages communautaires pour une vraie gouvernance au service des citoyens. Le pays est toujours en attente d'un nouveau Premier ministre. Alors on va discuter de tout cela, entre autres avec des étudiants et des femmes à Beyrouth, à Tripoli, la ville la plus pauvre du Liban. Ils seront au téléphone avec nous. Et puis en studio, Bilal Tarabeh. Bonjour Bilal.
Bonjour.
Vous êtes journaliste franco-libanais, vous collaborez entre autres à France 24 en français et pour l'agence Le Pictorium, une agence indépendante avec qui vous travaillez aussi comme photojournaliste. Dalia Obeid, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes libanaise, activiste en faveur du mariage civil. Vous êtes arrivée en France
en 2002. Je suis franco-libanaise.
C'est ça, vous m'avez dit, je suis une enfant de la guerre avec Israël.
Oui, tout à fait.
Les voisins, bien sûr, vous pouvez réagir, questionner nos invités au 33 1 84 22 71 71 et poser aussi vos questions sur WhatsApp pour nous laisser des messages et on va essayer de comprendre ce qui se passe au Liban aujourd'hui du côté de cette nouvelle génération et des femmes.
Ce que j'aime le plus, c'est que j'ai le sentiment de jouer un rôle dans cette révolution. C'est une sensation incroyable. Et ce qui est dingue, c'est que j'y participe en tant que DJ, ma passion depuis tout petit.
Il rassemble le peuple avec sa musique, ses mots. On vibre tous au même rythme. Il a réussi à redonner du courage aux manifestants, plus de force à la mobilisation.
Je participe à la révolution pour qu'on puisse vivre décemment au Liban comme dans les autres pays. Il y a tellement de choses qui ne fonctionnent pas ici. Lorsque je rejouerai dans les clubs, ce qui me manquera le plus, c'est cette vue.
Bilal Tarabeh, vous reconnaissez cette voix, cette musique aussi ?
L'hymne national, là, ou la voix d'avant ?
La voix d'avant aussi.
La voix d'avant, oui, c'est un DJ qui est très connu. Alors, ce qui est assez marrant, il y a deux choses qui
29
sont...
29 ans, hein ?
Ouais, tout à fait. Il y a deux choses qui sont intéressantes. D'abord, il y a beaucoup de DJ et de musiciens qui viennent de Tripoli. On en parlera plus tard, mais c'est pas un hasard total pour quelqu'un qui connaît un peu la scène musicale underground libanaise de voir que Tripoli se transforme en dance floor. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, donc, c'est vrai qu'il y a lui...
Lui, il est propriétaire de salles de jeux vidéo en ligne à Tripoli à l'origine. Hein. C'est un DJ, c'est pas à proprement parler un musicien. Néanmoins, il s'est retrouvé comme ça un peu dans le flux des événements sur la place Al-Nour parce qu'il a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il allait venir avec ses platines et tout le monde a accouru.
Alors, c'est un peu une spécialité libanaise d'avoir plusieurs métiers en même temps. Hein. Ça, je tiens à dire, c'est un peu particulier. En France, on a du mal à l'imaginer. Au Liban, c'est tout à fait normal d'être médecin le jour et pianiste de concert classique la nuit. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, il y a quelque chose qui m'a marqué. Quand je suis arrivé à Beyrouth, j'entendais sur des énormes sound systems de la place de la Révolution un morceau de rap arabe où le slogan des printemps arabes était repris avec des paroles un petit peu modifiées pour coller au contexte libanais. Et je me dis, mais c'est génial, parce que moi je suis arrivé à Beyrouth le 22 octobre, donc le mouvement avait commencé depuis à peine quelques jours.
Le 17.
Voilà. Je me disais, mais c'est génial, en quelques jours, il y a quelqu'un qui a déjà réussi à écrire un super morceau que tout le monde chante. Et bien, en fait, non. C'est un rappeur libanais qui a sorti ce morceau qui s'appelle Saoula, donc ça veut dire révolution en arabe, en 2011. inspiré par ce qui se passait en Tunisie. Et son morceau est ressorti donc 2011-2019, 8 ans plus tard, et il est joué sur tous les centres système de Beyrouth avec des paroles qui collent à ce qui se passe en ce moment.
Alors, dans le fond, pourquoi le ras-le-bol de la population maintenant, alors que les problèmes qu'on va décrire qui minent le pays sont là depuis des années, Dalia Obeid ?
En fait, il y a un cumul. On est sorti de la guerre en espérant qu'on va construire un pays avec les droits fondamentaux des Libanais. Mais finalement, on a eu une classe politique depuis 1990 jusqu'à maintenant qui profite des ressources du pays, qui ne change rien, l'inverse, qui vole les ressources. Et donc, du coup, à un moment donné, la population libanaise, elle n'en peut plus. Et en fait, vous avez parlé de la taxe WhatsApp, mais avant la taxe WhatsApp qui a fait éclater la révolution, il y avait les incendies. Oui. Les gens se sont retrouvés
dans plusieurs régions.
Dans plusieurs régions, au milieu des incendies. Il n'y avait pas l'État qui intervenait pour sauver les gens. Pourtant, ils avaient acheté des hélicoptères qui ont coûté des millions d'euros pour les incendies, mais ils ne l'ont pas utilisé pour des raisons techniques et administratives. Et donc, les gens se sont entraidés pour sauver les autres des incendies. Ensuite, il y a eu le WhatsApp, mais il y a eu un cumul, il y a eu la crise des déchets. Il y a quelques années, les Libanais se sont retrouvés dans une période où l'État ne gérait pas les déchets. Il y a eu aussi...
Encore aujourd'hui,
il y a un taux de chômage qui est élevé, d'ailleurs, qui a été annoncé en 2018 par le président de la République, qui a atteint 46%. Et aussi, il y a un taux d'immigration qui est élevé dans chaque famille. On a une ou deux, trois personnes qui ne sont pas là. Et donc, les mamans qui sont maintenant au cœur de la révolution, ils n'ont pouvaient plus de faire au revoir, de dire au revoir aux gens à l'aéroport et de pleurer chaque enfant qui partait du pays parce qu'il n'y a pas de possibilité de travail.
La diaspora libanaise, beaucoup plus nombreuse que les Libanais eux-mêmes qui sont près de 4 millions et demi. Et on est à combien de millions de Libanais à l'extérieur du pays
Ça dépend de combien de générations.
Disons de porteur d'un passeport libanais, on est au moins dans le double. On est dans le 8 millions d'origine. À une ou deux générations près, là, ça dépasse les 10 millions. Je sais, c'est très grand comme chiffre, mais c'est la vérité.
Alors, c'est toujours compliqué de citer des chiffres avec le Liban, parce que de toute façon, il n'y a pas eu de recensement depuis 1932. Ça aussi, ça dit beaucoup de choses de la volonté de laisser le pays un peu dans cette espèce d'opacité qui profite à l'élite. On a grosso modo 50% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Mmh. Et ces inégalités, Bilal Tarabé, les chiffres sont quand même assez hallucinants. 1% des plus riches qui captent 25% des revenus, 1% pour 25% des revenus. Si on compare par rapport à la France, c'est 1% qui capte seulement, je dis bien seulement, 11% des revenus. Les impôts aussi appliqués aux plus riches sont très bas, même si on compare par rapport aux États-Unis. On a une fiscalité qui est quand même assez archaïque, parce que si j'ai bien compris, on n'additionne pas les revenus pour faire des tranches fiscales, comme dans toutes les fiscalités modernes. Est-ce que cette opacité, ce divisionnisme, ces clivages aussi qui traditionnellement sont liés à la politique extérieure, Israël, la Syrie, tout ça, ça profite à qui dans le fond ?
Ben, ça profite aux hommes politiques au pouvoir. Vous parliez tout à l'heure du système de taxes qui est ubuesque, certes, mais il faudra encore que les gens les payent, les taxes. Parce qu'au Liban, il suffit d'un coup de fil, d'une bonne position, de sortir d'une famille influente, etc., pour juste ne pas payer d'impôts. Tout simplement, ça c'est des choses qui sont sues. Pourquoi cette histoire de taxe WhatsApp, qui peut paraître comme un détail anecdotique, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ou le bouchon de la cocotte minute qui a explosé? Parce qu'en fait, quand les instances, on va dire la gouvernance financière mondiale, qui, admettons, partons du principe qu'elle soit bien intentionnée, la Banque mondiale et autres, dit « on va aider le Liban à hauteur de 11 milliards, mais il faut un plan d'austérité, etc., assainir les finances ». Je la fais très rapidement. Bon, les gens s'attendent à ce que les finances commencent à s'assainir par le haut. C'est-à-dire qu'un député libanais qui est élu député pour 3 jours dans sa vie va garder son salaire toute sa vie, son chauffeur toute sa vie, et même à sa mort, son salaire va aller à sa femme, et parfois même jusqu'à ses enfants. Vous voyez, ça, le Libanais de base, il le sait. Donc, il ne comprend pas pourquoi Les hauts gradés de l'armée ne payent pas de l'essence. Pourquoi il y a tout un tas de privilèges qui partent comme ça du haut, hein. C'est comme l'État est une bête sur laquelle les hommes politiques s'engraissent. Mais en retour, au moindre plan d'austérité, non, l'une des premières décisions, c'est de taxer quelque chose qui reste l'une des dernières libertés des gens, c'est-à-dire WhatsApp.
Dalia Obed, néanmoins, pour pallier le vide de l'État, les dysfonctionnements de l'État, il y a quand même le clientélisme politique qui a fourni pendant des années des emplois, qui a payé des frais de scolarité, qui a payé des frais médicaux à ceux qui les soutenaient.
Oui, tout à fait. Et ça, c'est lié à chaque groupe confessionnel. Chaque confession, il y a beaucoup de partis politiques qui sont affiliés aux confessions et donc qui font profiter des gens de tout ce système. Mais moi, en fait, en entendant Bilal, j'avais envie de parler de WhatsApp. Pourquoi c'était la goutte d'eau ? Parce qu'en fait, WhatsApp aussi, c'est un moyen de télécommunication qui est utilisé par les plus démunis. Puisque, en fait, les réseaux de télécommunication au Liban sont monopolisés et le coût des appels téléphoniques, c'est extrêmement cher. Et donc, la vie des Libanais, ça fonctionne par WhatsApp. Ça veut dire que si je veux aller commander une pizza, j'utilise WhatsApp. J'appelle le monsieur par WhatsApp. Ou bien, si je veux même voir un médecin, parler avec un médecin, aussi j'utilise WhatsApp. Et en fait, ça, c'est toutes les classes sociales qui utilisent le WhatsApp, mais ça touche aussi les gens qui n'ont pas le moyen pour utiliser le téléphone.
Le seul moyen de téléphoner gratuitement.
Oui, c'est pour cela qu'on a vu le premier jour beaucoup des gens qui sont vulnérables, qui sont descendus dans la rue pour dire non à la taxe de WhatsApp.
Alors, il y a un problème qu'il faut qu'on évoque, parce que ça revient tout le temps dans les revendications des Libanais, c'est l'électricité. C'est vraiment un énervement quotidien pour les Libanais. Et aussi un problème assez emblématique du clientélisme politique. C'est quoi le problème de l'électricité, en quelques mots, Bilal Tarabé, au Liban ?
Au sortir de la guerre, comme toute guerre qui part... Et là, je pars du principe que l'État libanais est de bonne foi. Je pars de ce principe-là, d'accord ? Au sortir d'une guerre civile qui dure 15 ans, on peut imaginer que les infrastructures ne soient pas excessivement opérationnelles. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'elles n'ont jamais été reconstruites. Par-dessus, il y a des gens qui sont un petit peu plus malins que les autres. Et comme on a beaucoup d'auditeurs en Afrique qui savent que les Libanais ont tendance à être très très forts dans le commerce, ils se sont dit « on va se lancer dans le commerce de générateurs ». Ça a donné ce qu'on appelle au Liban la mafia des générateurs.
Pour combler les coupures d'électricité.
Pour combler les coupures
d'électricité. En moyenne, 3 heures de coupure par jour à Beyrouth, mais ça peut être beaucoup plus à Tripoli.
Ah oui, Beyrouth, c'est une ville qui est privilégiée. Ouais. Seulement 3 heures par jour, ça c'est pour Beyrouth. Dans d'autres régions du Liban, c'est 3 heures d'électricité, pas de coupure, mais d'électricité par jour.
Donc les générateurs qui prennent le relais. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on a un système de double facture.
Tout à fait. On paye deux fois. On paye deux fois pour l'électricité. L'eau, c'est la même chose. À Beyrouth, elle marche à peu près en dehors de Beyrouth. Tout le monde fait appel à des entreprises privées qui passent avec des citernes pour remplir, en cas de coupure d'eau. Et c'est tout le temps comme ça.
Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans l'eau. Parce que l'eau, on paye deux fois pour l'eau, mais l'eau, elle est extrêmement polluée et par des coliformes qui dépassent les moyennes, qui sont permis par l'Organisation mondiale de la santé et aussi par des agents chimiques. Donc, on boit de l'eau, on paye deux fois pour l'eau, mais on ne boit pas une eau qui peut être potable.
Sur l'électricité, Bilal Tarabé, vous disiez, sortir de la guerre, réseau sous-dimensionné, on part du principe que l'État, à ce moment-là, est de bonne foi. Aujourd'hui, il y a eu la pression des bailleurs de fonds qui ont dit, OK, on va réinjecter de l'argent, mais il faut absolument faire des investissements massifs d'infrastructures pour un meilleur réseau d'électricité, pour fabriquer plus de kilowattheures par rapport aux besoins de la commune, des citoyens, finalement. Alors, pourquoi il n'y a pas ces investissements, finalement, aujourd'hui ?
Mais parce que les hommes politiques libanais actuels ne veulent pas. Parce qu'ils sont tous liés les uns aux autres avec des intérêts, avec... c'est le mot en anglais qui me
Donc,
vient,
ça veut dire bribe. Il n'y a pas d'accord avec les partis politiques pour se partager des pots de vin en fonction des installations, des infrastructures, c'est ce que vous voulez dire ?
Oui, déjà ça c'est premièrement, et ça vaut aussi pour la crise des poubelles, parce que chaque contrat public qui est passé, il faut que chaque parti concerné puisse prendre sa part du gâteau. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, imaginez, vous êtes un homme politique libanais, vous avez votre clientèle à entretenir. Quelqu'un qui possède une entreprise de générateurs vous a donné, c'est sur les 10 dernières années, disons, on va donner un chiffre juste à titre d'exemple, 10 millions de dollars. Du jour au lendemain, vous allez venir le voir, vous allez lui dire « Oui, mais le FMI m'a dit que ce serait quand même bien de travailler pour le peuple et d'assainir, etc. Donc on va arrêter de travailler ensemble. » Est-ce que vous croyez qu'il va se passer ? Le type va dire je t'ai donné 12 millions de dollars pour qu'un jour tu me dises non ? Et fait, on vit aussi dans un pays, je finis juste là-dessus, et d'ailleurs, Dalia n'hésite pas à me corriger, mais on vit dans un pays où les gens sont assassinés hein, pour des motifs politiques. C'est pas juste des questions de posture. C'est une vie peut s'arrêter du jour au lendemain sur des histoires beaucoup plus.
On parle de la révolution au Liban, l'exaspération quotidienne de la population, des citoyens libanais. On va bien sûr aussi parler des jeunes, des femmes qui ont des problèmes spécifiques en plus, hein, qui se rajoutent à tout ce que vous avez décrit. La scène musicale libanaise, vous l'avez dit, Bilal Tarabé, c'est une des plus dynamiques du Moyen-Orient. Il y a du girly avec des Habibi, ma chérie, à tous les couplets, mais il y a surtout du rap, de l'électro-pop, de pop, ouais, de l'underground. Et avec la jeunesse dans la rue, c'est sûr, ça va pas s'arranger. Le groupe Acide Arabe chez 7 milliards de voisins. On est en direct sur RFI. La révolution au Liban, qu'est-ce qui empoisonne la vie des citoyens libanais? On en parle avec nos invités, Bilal Tarabé, journaliste notamment pour France 24, Dalia Obed, franco-libanaise activiste qui a beaucoup travaillé sur le mariage civil et on va en parler tout à l'heure. Et puis bien sûr, il y a les problèmes de la jeunesse, les problèmes des étudiants, l'accès à l'éducation. Nous en discutons aussi avec une étudiante qui est au téléphone à Beyrouth. Bonjour Souraya Karam.
Oui, bonjour.
Vous êtes étudiante en relations internationales et en histoire à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Vous avez 21 ans, Souraya. C'est la première fois que vous participez à un grand mouvement de révolte.
Alors, j'étais trop jeune pour m'en souvenir, mais on a participé aux manifestations de 2005, du 14 mars 2005, quand ça a eu lieu. Mais de manière consciente, oui, c'est la première fois que je participe personnellement à une manifestation de cette ampleur.
Comment vous le vivez ? Dans quel état d'esprit vous êtes ?
Alors, faisant partie moi-même des mouvances assez indépendantes du monde universitaire, pour nous, c'est un rêve qui se concrétise parce que ça fait quelques années qu'on travaille déjà sur la mobilisation indépendante et laïque dans les universités libanaises. Et jusque-là, on était en minorité. Et voir aujourd'hui que tous les étudiants se mettent sous la même bannière que nous, qu'ils revendiquent les mêmes choses que nous, c'est assez incroyable. Donc, on prend ça de manière extrêmement positive.
Ça veut dire quoi être dans la mouvance indépendante laïque au Liban, concrètement, Souraya ?
Alors, il s'agit de savoir déjà qu'au Liban, les partis politiques sont extrêmement présents au sein des enceintes universitaires. Les élections du BDE sont extrêmement politisées.
Le bureau des étudiants.
le bureau des étudiants, oui. On a chaque année des listes qui se forment et qui appartiennent soit à la coalition du 14 mars, soit à la coalition du 8 mars. Et chaque année, il y a également une liste au sein des différentes universités privées, parce que l'université libanaise n'a pas accès à ces élections du BDE. Donc, dans les universités privées, il y a une liste des indépendants. Et ces indépendants-là demandent plusieurs revendications de type démocratique, de type laïque, de type équité sociale. Et du coup, jusque-là, on était en minorité parce que les partis avaient énormément de contrôle dans les universités. Et aujourd'hui, le caractère inédit de ce mouvement étudiant, c'est vraiment de voir les étudiants libanais dire non, on ne veut plus voir les politiques traditionnelles au Liban, on veut nous-mêmes former notre propre mouvement étudiant unifié et transuniversitaire.
Restez en ligne avec nous, hein, Soraya. Bilal Tarabé, il faut bien qu'on explique à nos auditeurs l'accès à l'éducation, parce qu'on est dans un pays qui accède à l'éducation à 95%, enfin, il n'y a pas de problème d'accès à l'école. Néanmoins,
en fait, si.
Il ne suffit pas d'avoir accès à l'école, c'est
non,
ça
non, en fait, il y a un problème d'accès à l'école. Il y a un problème d'accès à l'école qui est dû parce que l'école publique libanaise, et là, je pars du primaire jusqu'à l'université, est dans un état qui est au-delà du catastrophique. Vraiment au-delà du catastrophique. Il n'y a pas de livres, il n'y a pas... En gros, on est proche des problématiques qu'on retrouve sur le continent africain. Ça, c'est pour l'école publique libanaise.
C'est-à-dire des classes surchargées.
C'est-à-dire des classes
surchargées.
Du fait
aussi de l'afflux massif de réfugiés syriens.
Oui, alors,
un million et demi.
Alors, pour le coup, il faut rendre à César ce qui lui appartient. L'éducation nationale libanaise a réorganisé l'emploi du temps des écoles publiques, ce qui fait que le matin, c'est pour les Libanais et l'après-midi, c'est pour les réfugiés syriens. Je dis juste comme pour une fois... Il y a quand même quelque chose qui n'est pas si mal.
Le double flux, nos auditeurs en Afrique subsaharienne connaissent bien ça, le double flux.
Mais, la plupart des Libanais qui le peuvent, et si Soraya est toujours avec moi au téléphone, elle peut me contredire si elle n'est pas d'accord avec moi, mais la plupart des Libanais qui le peuvent commencent dès l'école primaire à mettre leurs enfants dans des écoles privées qui coûtent, qui coûtent 5, 6 000, 7 000 dollars par an. Ça, vous additionnez, vous augmentez ce chiffre jusqu'au baccalauréat.
Là, vous ne parlez pas que de l'élite.
Je parle même des classes moyennes qui, du coup, justement, vont voir leur responsable politique local et religieux pour lui dire « S'il te plaît, tu peux pas me trouver une petite place, allez, etc. » Ça aussi, ça entretient le clientisme. Mais je veux dire, pour vous dire quelque chose, quand on demande à une Libanaise qui vient d'un certain milieu et qui est un petit peu éduquée, lui dire, voilà, tu penses à avoir des enfants, elle va répondre, un enfant, ça coûte 1 million de dollars.
Avec des études supérieures.
Avec des études supérieures.
Qui sont à plusieurs milliers de
15,
dollars.
15, 20 000, 20 000. Bah, je ne sais pas, elle est à l'USJ, Soraya.
Combien vous payez, Soraya Karam, à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth?
Pour mes licences classiques, c'est 10 000 dollars l'année. Et c'est évidemment pour quand on est en ingénierie, quand on est en médecine, ça part plus haut, sans parler des montants faramineux des universités américaines, les UB et la AU, pour qui une licence d'ingénierie peut taper dans les 35 000 dollars à l'année très facilement sur 4 ans, sans compter les cours d'été qui coûtent environ 4 000 dollars. Et tout ça pour se retrouver à quoi au final? Pour se retrouver à un taux de chômage de 25% dans lequel on a 37% de jeunes qui ne trouvent pas de travail. C'est-à-dire que sur les 35 diplômés qu'on a chaque année, 5 000 se retrouveront employés et les 30 000 restants se retrouvent sans emploi et donc forcés d'immigrer, forcés de partir. Avant, ça se faisait souvent dans les pays du Golfe. Aujourd'hui, ça se fait moins parce que là-bas aussi, c'est la crise. Et du coup, on se retrouve avec cette masse de jeunes qui y est assise sans rien faire dans son salon et qui ne trouve pas de travail.
Autour de vous, il y a beaucoup d'étudiants qui sont surendettés à cause des études supérieures?
Alors, je ne saurais vous dire parce que, enfin, on discute pas nécessairement des moyens de paiement, entre nous, mais je sais que, enfin, il y a pas mal d'aides sociales.
C'est intéressant. Vous dites, vous en discutez pas. Pourquoi d'ailleurs? Il y a une forme de pudeur, il y a un malaise.
Il y a une grande pudeur par rapport à ça. Il y a, le Libanais lambda n'a pas nécessairement envie de dire qu'il est dans le besoin et qu'il s'appuie sur telle ou telle aide venant de l'extérieur ou venant de l'université. Du coup, c'est un peu tabou de discuter de ce genre de sujet entre nous.
Souhaïa Karam, vous le disiez, vous militez pour vraiment un mouvement indépendant, laïque, pour que les étudiants se libèrent du communautarisme aussi dans les universités, qui noyotent les universités. Si on reprend les programmes d'histoire au secondaire, Bilal Tarabé, la guerre du Liban de 75 à 90, c'est quand même une guerre qui a duré 15 ans, n'est pas enseignée.
Ah mais ça, c'est quelque chose que je ne comprends toujours pas. Et j'ai moi-même posé la question, et on peut poser la question à Souhaïa, je ne comprends pas.
Souhaïa n'est pas au ministère de l'Enseignement.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, par exemple, on peut demander à Souhaïa qu'est-ce qu'elle a appris en cours d'histoire du Liban.
C'est ça. Qui vous a enseigné la guerre du Liban, Souhaïa?
Alors personnellement, je l'ai apprise à l'université parce que du coup, je suis en licence d'histoire aussi. Donc, on a beaucoup de cours qui sont axés sur la guerre du Liban. Avant d'arriver à l'université, personnellement, je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé durant cette guerre. Je savais qu'il y avait eu une guerre qui avait eu lieu de 75 à 90, mais dans les détails, on n'en parlait pas. Et tout ça, ça s'aligne sur la loi d'amnistie qui avait été votée en 92, qui veut que les manuels d'histoire officiel au Liban, donc du programme libanais, s'arrête en 43 et reprenne en 2008. Dans le programme français, étant donné que je suivais le bac français, on nous enseignait absolument pas la guerre du Liban, c'était pas dans le programme.
Et donc, ça veut dire que finalement, Souhaïa, chaque famille a son roman communautaire. Il n'y a pas de roman national.
C'est exactement ça. C'est des romans communautaires extrêmement subjectifs qui font qu'une fois arrivé dans la société adulte, l'étudiant a déjà tous ces préceptes qui lui ont été enseignés par ses parents.
Souhaïa Karam, vous n'avez pas connu la guerre du Liban qui s'est achevée en 1990, puisque vous avez 21 ans. Est-ce que vous avez peur d'un nouveau conflit? Est-ce que vos parents vous disent « ne va pas manifester » Comment vous vous positionnez par rapport à vos parents?
Alors, personnellement, mes parents n'ont jamais été affiliés à une quelconque communauté ou un quelconque parti politique parce qu'ils voyaient très bien dans quel sens lamentable ça allait. Mais non, en fait, personnellement, mes parents m'ont toujours dit d'aller manifester parce que ces manifestations ont eu pour effet de vraiment donner naissance à citoyenneté libanaise 100 ans après la déclaration du Grand Liban, c'est-à-dire qu'il nous a fallu 100 ans après que le Grand Liban soit proclamé à la résidence des Pins en 1920 pour vraiment avoir cette citoyenneté libanaise.
Ceux qui disent à la jeunesse, si vous continuez, ça sera le chaos, ça sera la Syrie, ça sera l'Irak, qu'est-ce que vous répondez?
On leur répond que jusqu'à maintenant, notre révolution a su éviter tous les pièges qui ont été tendus à l'Irak, qui ont été tendus par le passé à la Syrie, à la Tunisie, à l'Égypte. Et donc qu'aujourd'hui, les manifestants ont vraiment su garder ce pacifisme et ont su éviter tous les pièges qui leur ont été tendus jusqu'à maintenant.
Merci beaucoup, Souhaïa Karam, d'avoir été en ligne avec nous. Je le rappelle, vous avez 21 ans. Et vous êtes étudiante en relations internationales et en histoire à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Est-ce que vous rêvez, comme beaucoup de vos amis, de quitter le Liban pour la suite de votre vie?
Alors, c'est vraiment pour vous dire qu'aucun de nous ne rêve de quitter le Liban. Personne n'en a envie. L'immigration est quelque chose qui déchire profondément les Libanais. Mais comme beaucoup de jeunes, je suis forcée après mes études d'aller regarder à l'étranger en termes d'emploi parce qu'il n'y a vraiment pas de travail au Liban. Et que donc, oui, l'année prochaine, malheureusement, je vais devoir partir et poursuivre des études supérieures ailleurs.
Merci Souhaïa. Très très bonne journée à Beyrouth.
Merci à vous, au revoir.
Voilà comment après une guerre on oublie tout. Bon sans rien, on n'a rien appris, rien. Viens, regarde dans ma ruelle l'armée, les barbelés, les poubelles. Pour Noël, ça décore bien le Liban, tout va bien. Quel pays de vauriens, je te jure. Cadeau, un panneau pour compter le nombre de jours que le ministre nous a quittés. On court encore pour le parcours de con. Et qu'on se bat tant à temps. La vérité c'est marquant. Mais remarquez que le meurtre de Hariri c'est comme le meurtre de Kennedy. On dit, mais dis-moi, qui l'a tué lui? T'as une vie ou plusieurs, mais en tout cas t'oublies. D'ailleurs, ailleurs, on ne disait pas avant. Vive le Liban, vive le Liban.
much asking, asking? Is it too much asking for one love? Is it too much asking for one world? Is it too much asking for one God? Is it?
I had a dream. Martin Luther King, j'imagine, comme les nonnes, oui j'imagine, la religion à part, chacun aurait sa part, personne ne tousserait, pousserait pour tous ces bâtards, mais pas ça, pas, papa qu'est-ce qui se passe ici, laisse tomber Ramzi, y'a pas d'issue, la religion nous sépare, mais qui va réparer le messie, merci à ceux qui ont foutu mon pays en l'air, dur comme fer, le monde est à refaire, chrétiens, musulmans, druzes, arrêtez de vous faire la guerre, on est tous nés à poil, pas du tout pour l'état, ni dans l'état de l'état, de l'état de l'autre état, alors basta, dur comme fer, le monde est à refaire, rassemblez-vous mes frères, la guérilla les génère, les révolutionnaires ne seront jamais prêts à se taire, mes frères, arrêtez de vouloir cette guerre.
Is it too much asking for one love? Is it too much asking for one world? Is it too much asking for one God? Is it too much asking, asking? Is it too much asking for one love? Is it too much asking for one world? Is it too much asking for one God? Is it?
Vous êtes bien branchés chez 7 milliards de voisins, on est plutôt à l'heure libanaise aujourd'hui. Nous revenons au cœur de cette contestation sociale qui ne faiblit pas au Liban, que les Libanais appellent révolution d'ailleurs. Comment on dit, Bilal Tarabé, c'est quel est le mot employé aujourd'hui au Liban ?
Saoula.
Oui, c'est ça, ça veut dire révolution.
Ça veut dire littéralement révolution. Maintenant, si on pense juste une microseconde à 1789... l'abolition des privilèges, la construction d'une nation, c'est exactement ce qu'on est en train de voir à Beyrouth.
Avec une grande protestation à l'égard des élites politiques, du vide de l'État aussi, et une contestation sociale qui réclame un gouvernement de technocrates. Hein, pour
pas
reprendre...
forcément de technocrates, mais qui
c'est
sont
indépendants. C'est un mot qui revient beaucoup, néanmoins.
Qui revient beaucoup. Mais en fait, je voudrais juste souligner qu'en ce moment-là, il y a des manifestants au Liban qui ont empêché une séance de parlement qui devait se faire ce matin. Les parlementaires, ils voulaient voter une loi d'amnistie générale pour éradiquer, enfin, entre guillemets, les violations et les crimes qui sont commis par eux et par aussi d'autres groupes. Et donc, du coup, le peuple libanais est descendu dans la rue pour empêcher les députés de rentrer dans le Parlement. Donc ça, c'est une réussite, une des réussites de la révolution libanaise. Et comme on en a parlé, je pense que ça, c'est un instant fondateur. On n'a jamais vu ça au Liban. C'est une sorte de communion nationale. Les Libanais, ils n'ont jamais connu. Et en fait, c'est une opportunité de vivre ensemble qui dépasse toutes les confessions. Et lorsqu'on parle des jeunes, on parle des jeunes qui n'ont rien à voir avec la classe politique existante. Cette classe qui est dépassée, qui parle avec un langage de notre temps. Mais c'est des jeunes du millénium qui ont d'autres moyens de contestation tout à fait différentes, qui sont pacifistes. Pour le moment, ils reçoivent beaucoup de coups par la police et ils répondent d'une façon pacifiste et d'une façon très solidaire.
Dalia Obed, vous êtes franco-libanaise, installée en France depuis quelques années, activiste. Bilal Tarabé, vous êtes journaliste, vous collaborez notamment à France 24 et vous êtes aussi photojournaliste pour l'agence Le Pictorium, qui est une agence indépendante. Hein. On le disait au début de l'émission, puisqu'on a commencé par parler de ces inégalités qui minent en profondeur la société libanaise. Et aujourd'hui, Bilal Tarabé, vous nous l'expliquez, finalement, les Libanais se rendent compte qu'au-delà des communautés, des confessions religieuses, des clientélismes politiques, les Libanais se rendent compte qu'ils ont tous les mêmes problèmes, plus ou moins, finalement, hein, au quotidien.
Excusez-moi, je vous interromps, mais en fait, quand je vivais à Beyrouth, je suis rentré de Beyrouth l'année dernière. Quand je vivais à Beyrouth, je veux dire, ne pas avoir d'électricité, ça n'a pas de religion. Ne pas avoir d'eau, ça n'a pas de religion. Ne pas avoir d'emploi, ça n'a pas de religion. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement évident quand on est au Liban. Quand je suis rentré en France, j'ai dit... Il faut arrêter de tout contextualiser d'un point de vue géopolitique constamment. Il y a une vraie cocotte minute sociale au Liban qui concerne tout le monde.
Alors, on a parlé de la jeunesse avec cette étudiante, Souhaïa Karam, de 21 ans, qui est à Beyrouth. Je voudrais qu'on donne la parole maintenant à deux femmes. Pamela Schrabé, bonjour.
Oui, bonjour Emmanuel et bonjour à l'audience et les invités de ton émission.
Vous êtes, merci d'être avec nous en direct chez 7 milliards de voisins. Vous êtes activiste féministe depuis une vingtaine d'années. Vous êtes docteur en sciences des religions. Vous habitez dans les environs de Beyrouth. On est également en ligne à Tripoli avec Mira Minkara. Bonjour.
Bonjour.
Mira, vous êtes très connue à Tripoli, vous êtes guide touristique. Votre Mira's Guide Tour est très connue sur les réseaux sociaux. Vu de loin, Tripoli, la ville la plus pauvre du Liban, à majorité sunnite, minée historiquement par des divisions communautaires entre sunnites et chiites, ça peut sembler bizarre de proposer des visites touristiques.
Oui, en fait, c'est mon projet. De changer un peu ce stéréotype sur ma ville. Et ça a commencé en 2014 en proposant des groupes ou des visites guidées à Tripoli que personne ne voulait vraiment visiter. Mais j'ai essayé avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour de changer un peu cette image qui est partout aussi dans les réseaux sociaux aussi et dans les médias.
Et là, vous participez activement aux manifestations. Vous avez encore des visites. Du coup, est-ce que votre activité s'est un peu transformée du fait de la révolution?
Bien sûr que j'ai beaucoup moins de touristes et malheureusement. Mais en même temps, j'ai toujours pas mal de curieux et de visiteurs qui viennent au Liban parce qu'en fait. Le truc, c'est que nos démonstrations ne sont pas violentes. Donc, il n'y a pas vraiment des trucs à craindre. Et donc, il y a toujours des visiteurs et des touristes, mais bien sûr que c'est beaucoup moins. Et en plus, les Libanais, parce que moi aussi, je fais du tourisme domestique. Donc, il y a beaucoup de Libanais qui ne viennent plus aussi à cause de la crise économique. C'est ça aussi un grand problème. Parce que les gens...
Vous les emmenez dans les quartiers les plus pauvres de Tripoli, hein?
En fait, le centre-ville ou l'ancienne ville, c'est vraiment la ville qui est pauvre quand même. Et donc, oui, je les emmène là-bas. Et il y a beaucoup de problèmes, bien sûr, là-bas de pauvreté, d'aménagement de poubelles, qui est notre grand problème aussi au Liban, pas seulement à Tripoli, mais à Beyrouth.
C'est une ville qui est historiquement très conservatrice, très, très religieuse, qui est devenue aussi maintenant, qui était minée, donc je le disais, par des divisions communautaires. C'est devenu une ville leader de la contestation sociale. Est-ce que vous avez un élément d'explication, Mira Minkara?
Oui, bien sûr, parce que c'est la ville la plus pauvre sur la côte méditerranéenne. Et donc, quand on a un taux de chômage qui est assez haut, les enfants qui travaillent aussi, alors c'est vraiment, il y a beaucoup d'inégalités et les gens vraiment souffrent.
60%, on va le préciser, si les chiffres sont exacts, 60% des jeunes sont au chômage à Tripoli, ça correspond à ce que vous voyez, Mira?
Ouais. Je ne sais pas si c'est 60%, mais ça pourrait l'être. Je ne suis pas sûre par rapport au nombre, mais ça pourrait être la moitié, oui. Il y a beaucoup, beaucoup de chômage. Et maintenant, quand je suis dans la place de Nour, on l'appelle Sert Nour, vraiment, je vois vraiment le drame un peu de Tripoli qui est la pauvreté, les gens qui n'ont même pas le prix d'un déjeuner, de leur déjeuner ou à manger quoi.
Vous croyez à une unité nationale durable face à la classe politique dirigeante du fait de ces problèmes tellement partagés?
Bien sûr. C'est notre seul espoir, l'unité nationale. Sinon, on a vraiment besoin d'être tous unis, de partout du nord jusqu'au sud. Sinon, on a un gouvernement qui sont des criminels de guerre, quoi. Donc,
je voudrais qu'on parle de la contestation, enfin de la place des femmes dans la nouvelle contestation, parce que c'est vrai que les femmes, elles sont pas tellement visibles finalement sur le plan politique, dans les partis, dans ceux qui dirigent aussi la politique, au niveau aussi des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires. Il y a pas beaucoup de femmes. femme. Pamela Schrabe, comment vous voyez la place des femmes dans cette contestation ?
Écoutez, la lutte des femmes et surtout la lutte des féministes ne date pas du 17 octobre. Mmh. Elle remonte au 19e siècle. Moi-même, je suis féministe depuis plus de 20 ans et nous avons beaucoup d'organisations qui travaillent sur le terrain, des activistes, des intellectuels, des femmes au foyer qui
quand on dit qu'on est féministe au Liban, comment on réagit ?
Oui. Il y a plusieurs manières d'être féministe au Liban. Il y a la droite, la gauche, les pro-religieuses, les séculières. Il est vrai qu'il s'agit encore, pour beaucoup de personnes, d'un mot tabou ou d'une connotation avec une connotation négative. Mais ce qu'on voit depuis le 17 octobre, c'est beaucoup plus de visibilité pour les femmes en général, dans les places publiques, qu'elles ont investi à fond, sur les réseaux sociaux et partout finalement. Donc beaucoup plus de visibilité pour ces femmes qui ont les mêmes revendications que les hommes. Mais une meilleure visibilité aussi pour les féministes, qu'ils soient hommes ou femmes.
Dalia Obed, vous avez, en tant que franco-libanaise activiste, beaucoup, beaucoup milité pour le mariage civil, qui est toujours impossible au Liban.
Oui,
Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Parce qu'en fait, au Liban, les affaires matrimoniales, elles sont gérées par les instances confessionnelles. Ça veut dire que si je suis née d'une confession chiite, en fonction de la religion de mon père, et je veux me marier avec quelqu'un qui est chiite, donc je veux me marier selon les lois de la confession chiite.
Si vous voulez épouser un chrétien, par exemple.
Si je veux épouser un chrétien, soit je me convertis, soit il se convertit. Là, je parle des lois religieuses. Hein. Soit je me convertis, soit il se convertit. Parce qu'au Liban, le mariage civil n'existe pas. Les Libanais sont en train d'aller à Chypre ou bien aussi dans les pays européens pour se marier civilement.
Donc, il faut aller à l'étranger pour se marier civilement.
À l'étranger.
Le mariage civil, une fois qu'on revient au Liban parce qu'on a épousé une personne en dehors de sa communauté, ce mariage civil, il est valable ou pas au Liban ?
Tout à fait. Si je vais à l'ambassade, si je veux marier en France, je vais inscrire mon mariage à l'ambassade libanais à Paris, qui va transmettre les papiers au Liban. Donc, je veux être reconnue comme une femme mariée. Mais par contre, si je veux divorcer le mariage civil au Liban, ça, c'est possible. Et il est à noter que, pour le moment, il y a beaucoup d'agences de voyage qui ont monté un business pour le mariage civil, comme l'agence Nahal et Nadia Travel. Et pour le moment, on a à peu près 700 unions civiles qui sont contractées tous les ans par des ressortissants libanais juste à Chypre. On ne compte pas les mariages civils qui se font en Europe ou bien aux États-Unis ou bien en Grèce.
On compare, Bilal Tarabé, par rapport à l'Algérie, au Maroc, à la Tunisie, à l'Égypte, le mariage civil existe dans tous ces pays-là.
Mais parce qu'ils sont plus avancés.
Juste en Tunisie, je ne pense pas qu'au Maroc...
Au Maroc, je ne sais pas.
Non, juste en Tunisie.
Non, je vous posais la question. Une mère ne peut pas transmettre sa nationalité, par ailleurs.
Une mère libanaise qui se marie avec un Français ou bien avec un Syrien ou bien un Palestinien ne peut pas transmettre la nationalité. Donc l'enfant, il suit la nationalité de son père.
Alors ça a une explication qui est donc à la fois évidemment extrêmement machiste et patriarcale. Ça, c'est quand même la raison numéro un.
Et raciste aussi.
La raison numéro deux, j'allais y arriver, c'est une raison raciste. C'est qu'au moment de l'afflux des réfugiés palestiniens qui n'ont pas forcément demandé à venir s'installer au Liban, les autorités ont eu peur que si les femmes libanaises se mariaient avec des Palestiniens et transmettaient leur nationalité, du coup, il y aurait un basculement démographique en faveur de l'islam sunnite. Là, je parle de ça directement. Et alors, on a quelqu'un, là, en ce moment, qui s'appelle Gebran Bassil, qui est le gendre du président et qui est ministre des Affaires étrangères. Je vous dis ça pourquoi ? Parce qu'il a proposé...
Le leader du courant patriotique libre, hein, le parti chrétien.
Voilà, il a proposé dans un éclair de lucidité de réformer justement cette loi sur la transmission de la nationalité qui deviendrait possible pour les femmes. Jusque-là, tout va bien. Sauf si elle se marie avec un Syrien ou un Palestinien. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a ce double, il y a ce patriarcat. et cette couche de problèmes, de racisme, de démographie. Voilà.
On arrive bientôt au terme de cette émission. Mira Minkara, vous qui êtes guide touristique à Tripoli, la ville la plus pauvre du Liban, dans le nord du Liban, une ville à majorité sunnite. Vous, quelles sont les urgences qui sont à réaliser pour la place des femmes dans la société libanaise, Mira, en quelques mots?
C'est la même chose dans tout le Liban, je crois, les lois qui protègent les femmes, quoi. C'est pas seulement à Tripoli. Je crois que, en fait, bizarrement, comme les gens pensent toujours que Tripoli, c'est très conservateur, mais les entrepreneurs à Tripoli sont des femmes, en fait. Donc, même si la société, parfois, est un peu plus conservatrice qu'à Beyrouth, pas plus, parce qu'il y a toujours ce stigma que Tripoli, c'est très conservateur, etc. Moi, je trouve que même à Beyrouth, il y a des endroits qui sont aussi très conservateurs. C'est juste une question de géographie et de grandeur de ville. Mais je crois que les femmes sont vraiment, même avec toute l'oppression qu'on a, je trouve qu'on est des femmes qui travaillent beaucoup, qui font beaucoup pour la société. Avant même la révolution.
Mais n'oublions pas que le taux d'immigration...
Pamela Schrabe, je voudrais vous poser la même question, mais vraiment, il nous reste quelques secondes. Pour vous, vous définissez comme féministe. Qu'est-ce que vous réclamez en priorité, là, en tant que femme?
Eh bien, beaucoup de choses. En dépit de toutes les réformes et de la lutte continue, incluant la fin du patriarcat, du concessionnalisme, un statut de personnel civil commun, la nationalité, le droit de donner la nationalité à ses enfants et son mari étranger, le droit d'accéder aux postes de décision économique et politique, et la liste est trop longue.
La liste est trop longue. En effet, mais enfin bon, on a quand même parlé déjà de beaucoup de choses. Bilal Tarabé, vous, en tant que journaliste, comment vous voyez la suite des événements? Est-ce que les partis politiques aujourd'hui sont en train de jouer la montre, parier sur un essoufflement, sur un pourrissement de la situation? Ou est-ce qu'on peut craindre une répression aussi de grande ampleur? Il y a déjà des activistes, des jeunes, beaucoup qui ont été, quelques dizaines en tout cas, qui ont été arrêtés, qui sont surveillés. Comment vous voyez la suite
alors,
des événements?
Alors... Juste, bon, déjà, évidemment, c'est impossible de prévoir l'avenir. Hein. Ça, c'est une manière dans l'absolu. Maintenant, il y a des petites nuances. C'est-à-dire que jusqu'à il y a quelques jours, jusqu'à ce qu'un manifestant druze soit tué par un soldat de l'armée libanaise, j'aurais dit ça n'arrivera jamais. Parce que le Liban n'est pas l'Irak, le Liban n'est pas une dictature militaire, le Liban n'est pas le Soudan, le Liban n'est même pas l'Algérie, d'ailleurs, là-dessus. C'est-à-dire qu'on a traditionnellement une armée qui est plutôt neutre et qui est plutôt une force d'interposition entre diverses factions. Maintenant, en effet, je pense que vous avez raison. C'est-à-dire que pour l'instant, les politiques jouent la montre. Et le fait qu'aujourd'hui, au moment où on parle, la rue s'attaque au Parlement, elle est en train de s'attaquer au cœur du pouvoir. Et c'est là où tout va se jouer, en fait, si le Parlement tombe ou pas. Je voudrais juste ajouter un micro-truc sur Tripoli.
5 secondes.
Ouais. Les familles les plus riches du Liban viennent de Tripoli.
Aussi.
Voilà.
Malgré la pauvreté de la ville.
Exactement.
Les plus riches, oui.
Ouais. Et donc, on revient aux fameuses inégalités. Dalia Obadi, il nous reste vraiment 5 secondes.
Lorsque je lis ce matin que mon ami qui manifeste, qui dit « Moi, je suis revenu dans ce pays et je n'ai plus envie d'immigrer. Je veux rester ici. Je veux combattre jusqu'au dernier souffle, pacifiquement. Je crois en cette révolution et je dis que ça va avancer. » Ça ne va pas reculer. Et j'espère que ça va rester pacifique.
Merci à vous tous, Bilal Tarabé, Dalia Obed. Merci à vous, Soraya Karam, qui était en ligne tout à l'heure avec nous. Merci à vous, Pamela Schrabe, et à Mira Minkara, qui était à Tripoli. Demain, 7 milliards de voisins. On donne la parole aux jeunes qui veulent entreprendre en Afrique avec les conseils du coach Didier Akwété. Et dans quelques instants, ce sera le journal.